Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ? Content de célébrer le Seigneur ce matin ? Bien, moi aussi. Peut-être juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, donc nous allons aborder Jean chapitre 10, qui est la parabole du bon berger. Et peut-être vous apporter quelques éléments de contexte avant de commencer dans Jean chapitre 10. Et juste le chapitre précédent, chapitre 9, Jean va relater la guérison d'un aveugle né. Et le Seigneur Jésus va se servir de cette affaire comme point de départ pour parler d'un aveuglement plus grave. Un aveuglement plus grave que l'aveuglement naturel, c'est l'aveuglement spirituel. Et comment cet aveuglement peut être guéri ? En fait, cet aveugle né fut guéri d'un double aveuglement. Par la grâce du Seigneur, il n'a pas seulement récupéré sa capacité naturelle de voir, mais il a aussi été amené à reconnaître le Fils de Dieu. Et vous savez, les gens du monde célèbrent un vieil homme en rouge qu'ils savent ne pas exister. Ils ne peuvent dire que « bonne fête, joyeuse fête », mais nous, les enfants de Dieu, nous savons ce que nous fêtons. Nous fêtons la venue du Seigneur Jésus, le bon berger. Et donc, Jésus va nous raconter deux paraboles. Celle de la bergerie, puis celle de la porte. Et puis après, il va nous en donner l'explication. Et ce matin, je vous propose de parcourir avec moi Jean chapitre 10 et d'entrer par la porte de la bergerie et de célébrer le bon berger. Alors, commençons par la parabole du bon berger et on va reprendre les versets 1 à 6. Jean chapitre 10, les versets 1 à 6. Jean chapitre 10 et les versets 1 à 6. Et gardez vos Bibles ouvertes. On va continuer à parcourir ces versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. À la lecture de ces versets, vous savez, quand Jésus exprime cela, c'était assez familier pour les Juifs de l'époque. La nuit, on parquait les brebis de plusieurs familles dans un enclos et en louant les services d'un gardien. Et ce gardien devait veiller à ce que personne ne rentre dans l'enclos. Et on raconte que ce gardien se couchait lui-même en travers de l'entrée, et que littéralement, il était cette porte. Ceux qui avaient le droit d'entrer, bien évidemment, pénétraient par la porte. Et ceux qui voulaient voler ou endommager, eh bien, ils escaladaient le muret. Et le matin, le berger revient, il est connu du gardien et de ses brebis, et par la suite, le berger va mener ses brebis hors de l'enclos, vers le pâturage. Et vous savez, dans une famille d'éleveurs, garçons et filles pouvaient être à la charge de la surveillance du troupeau. Nous avons l'exemple dans la Bible de plusieurs personnes, Rachel, Rebecca, pour citer les femmes, mais on a aussi les hommes, Jacob, David, puis on a aussi le premier berger de la Bible, Abel, qui était le premier berger. Et donc pour les Juifs, ces images que Jésus utilise sont basées sur l'image de Dieu comme étant le berger de son peuple et d'Israël comme le troupeau. Beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, on l'a vu ce matin, reprennent ces images. On a les psaumes qui sont remplis de ces images. On a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Peut-être pour vous en citer un, Ésaïe 40, 11, ne le prenez pas, je vais vous le lire. « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. » Il conduira les brebis qu'il allaite. Et donc, plusieurs images dans la Bible. Les bergers marchaient aussi toujours devant le troupeau. Et les brebis étaient dociles, c'est-à-dire avec soumission et obéissance. Ils connaissaient, le berger, chacune de leurs bêtes. Et ils leur donnaient des noms. Dans certains pays, notamment en Occident, il y a des bergers qui marchent derrière, vous savez, avec les chiens de troupeau. Mais ceux du Proche-Orient, les bergers marchent devant en appelant les brebis à le suivre. Donc, le berger qui marche devant, les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et ça montre qu'on a aussi cette belle image de relation maître-disciple. Et on voit souvent que la direction spirituelle, vous savez, dans le Nouveau Testament, se fait toujours par l'exemple. C'est aussi un appel pour nous à imiter nos dirigeants. Imitons aussi nos dirigeants. Vous savez, un missionnaire dans un des pays orientaux raconte qu'il s'est entretenu avec un berger d'Israël. Et le berger lui a confirmé l'habitude de donner à chaque mouton un nom et à les habituer à réagir à ce nom. Et sur la demande du missionnaire, pour faire le test, le berger a appelé l'un d'eux et la brebis est venue immédiatement. Et la brebis a abandonné le pâturage et ses compagnons et elle s'est placée près du berger. Par contre, si quelqu'un d'autre l'appelait, eh bien, elle ne réagissait pas. Ce berger disait aussi que certaines de ses brebis étaient encore sauvages. C'est-à-dire qu'elles ne réagissaient pas parce qu'elles n'étaient pas encore apprivoisées. Et vous savez, l'Église en ce monde est similaire à une bergerie. Nous sommes exposés aux dangers, nous sommes exposés aussi aux trompeurs, aux persécutions, mais le grand berger, lui, connaît toutes celles qui lui appartiennent. Et le grand berger les garde par sa providence, il les guide par son Saint-Esprit, par sa parole, il marche devant eux, comme le faisaient les bergers au temps de Jésus. Et puis nous voyons que Jésus, après avoir raconté ces petites paraboles, la parole nous dit qu'ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ils ne pouvaient ni ne voulaient les comprendre, car leur aveuglement les rendait incapables de saisir de telles vérités. Nous-mêmes, peut-être que ce matin, nous sommes encore dans la compréhension. Je vous propose maintenant de voir la parabole de la porte, les versets suivants, versets 7 à 9. La parabole de la porte, les versets 7 à 9. Relisons. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutées. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de verts pâturages. » Je relève plusieurs choses dans ces quelques versets. On voit que premièrement, cette porte, elle est exclusive. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus ne dit pas « je suis une porte parmi tant d'autres ». Non, il dit « je suis la porte ». Il est la seule porte d'entrée. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu et à son riche trésor autrement que par lui. En dehors de lui, l'accès est strictement interdit. Dieu est saint, nous sommes pécheurs. Si nous osons nous approcher par un autre moyen, c'est la mort certaine. Et vous savez, cette prétention à l'exclusivité va complètement à l'encontre de notre société actuelle. La philosophie pluraliste vous dira, il y a plusieurs portes, plusieurs chemins, plusieurs vérités. Il ne faut surtout pas imposer sa vérité aux autres. C'est très étrange, non ? Notre culture, pourtant, prône la tolérance. Il faut tolérer toutes les idées, toutes les façons de vivre, sauf celles qui affirment qu'il n'y a qu'un seul chemin. Si vous dites que Jésus est la seule porte, vous pouvez être certain que cette idée ne sera pas tolérée très longtemps. Comment Jésus peut-il prétendre à cette exclusivité ? Eh bien, parce qu'il est un homme parfait et en même temps vrai Dieu éternel. Nous méritons la mort éternelle. Nous méritons d'être séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais Jésus a pris sur lui notre culpabilité. Il est mort à notre place. Et cette mort nous rend ce libre accès à Dieu. Bien entendu, les voleurs et les brigands contestent que Jésus soit la seule porte. Dans le contexte de notre passage, hein, si on regarde, les dirigeants juifs étaient en colère parce que Jésus avait guéri un aveugle de naissance. Et parce que cet aveugle rendait gloire à Jésus. Ces mêmes dirigeants auraient dû être des bergers spirituels. Ces mêmes dirigeants auraient dû être des bergers spirituels pour le peuple d'Israël. Jésus dit à leur sujet justement, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Pourquoi ? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Eh bien parce qu'ils n'ont pas pris soin du peuple de Dieu. Les pharisiens, on le sait, ils ont cherché leurs propres intérêts. Ils ont contesté le fait que Jésus soit la porte des brebis. Et vous savez, les voleurs et les brigands sont encore nombreux aujourd'hui. Des gourous et des maîtres spirituels de toutes sortes prétendent posséder des techniques et des vérités secrètes. Mais au fond, ils détournent les gens de la vérité. Ils détournent les gens de la parole de Dieu. Il y en a tellement, les gourous de TikTok, Instagram, YouTube, pour ne citer quelques-uns. Mais un jour, quelqu'un m'avait dit ça. Il m'a dit, Samy, tu sais, les boucs, ils vont boire à plusieurs sources. Mais les brebis, ils boivent qu'à une seule source. L'Église doit continuer de prêcher fidèlement et courageusement que Jésus est le seul chemin, la seule porte, le seul moyen de salut. Les vraies brebis n'écoutent pas les faux prophètes. Tous ceux qui sont venus avant Jésus, nous dit la parole, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis, c'est noté, ne les ont point écoutés, les vraies brebis. Toutefois, prenons garde à la faculté de Satan à imiter ses brebis et ses bons bergers. Il sait se déguiser en ange de lumière, nous dit la parole. Et puis, il n'y a pas deux portes de bergerie comme celle-ci. Hein. Si vous êtes étranger, l'adoption est encore possible. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que cette porte, elle est exclusive, oui, mais c'est aussi une invitation à entrer. Cette porte est une invitation à entrer. Regardez avec moi verset 9. Jésus nous dit, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a qu'une seule porte, mais tous sont invités à entrer. L'offre est présentée à tous. Vous savez, il nous arrive souvent d'imposer des limites à Dieu. Hein. On pense que telle ou telle personne ne pourrait jamais devenir chrétienne parce qu'elle est trop loin de Dieu, parce qu'elle est trop vieille, trop endurcie, pas assez éduquée. Non. Il n'y a aucune raison pour que quiconque parmi nous, parmi nos amis, parmi nos connaissances, parmi nos parents, ne soit attiré à Jésus-Christ. Dieu est tout-puissant et plein de grâce. Regardez, l'homme que Jésus a guéri au chapitre 9, on ne l'a pas vu, mais c'était un aveugle-né, un homme sans instruction, un mendiant, un pauvre pécheur méprisé par les dirigeants juifs. Et pourtant, il a été attiré à Dieu. Il a cru en Jésus et il est entré par la porte. Sa vie nouvelle en Christ a déjà commencé. Il s'était même mis à enseigner les Juifs. Toi, homme tout entier, rempli de péché, tu te mets à nous enseigner. Les pharisiens lui avaient dit cela. Et quelle merveille pour nous ce matin de nous rappeler que Jésus est la porte des brebis. On veut se rappeler de cette joie de lui appartenir dans l'attente de son retour, de pouvoir entendre et écouter sa voix. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, peut-être ce matin, vous savez, Jésus ne dit pas « Je suis un mur qu'il faut escalader ». En vérité, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la porte. La porte est déjà là, déjà ouverte. Jésus vous attend les bras ouverts. Il ne vous forcera jamais à l'aimer. Et puis, je note que la porte ne nous permet pas seulement d'entrer. Elle nous permet d'entrer et de sortir. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Oui, il faut rentrer par la porte pour être sauvé. Mais il est aussi possible d'entrer et de sortir. Et cette image de cette porte va nous permettre d'expliquer d'autres vérités. Une fois que nous devenons croyants, nous entrons et nous sortons par la même porte. Autrement dit, nous avons toute cette provision que Dieu nous donne au travers de l'image des verts pâturages et de l'abondance. Regardez. Ce qui nous amène à voir que cette porte, en plus d'être exclusive et nous invite à entrer, eh bien cette porte donne accès à de grandes richesses. Regardez, premièrement, on l'a déjà abordé, c'est le salut. Celui qui entre par la porte est sauvé. Merveilleux cadeau. Vous entrez par la porte, vous êtes sauvé. Deuxièmement, celui qui entre par la porte trouve la sécurité. Il veille constamment sur ses brebis. Comme l'image un peu du psaume 121 au verset 8, ne prenez pas, je vais vous le lire, on le connaît peut-être, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Vous savez, le soir, le berger rassemblait son troupeau et il le faisait entrer dans l'enclos pour la nuit. Et il fermait la porte pour que ses brebis soient justement en sécurité. Et le berger pouvait aller tranquillement dormir. Et même s'il y avait des loups qui pouvaient rôder autour, le berger pouvait tranquillement dormir. Bien sûr, nous savons que Jésus, notre bon berger, lui, ne dort jamais. Dans le même psaume, 121, il est dit « Celui qui te garde ne sommeillera point ». Ça me pose cette question, est-ce que Dieu nous protège de tout accident, de toute maladie ou de toute épreuve? Eh bien, non. Les chrétiens doivent passer par bien des souffrances. Mais nous avons cette sécurité dans le sens que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous couper de cette communion avec Dieu. Voilà la sécurité qui nous est promise. Nous pouvons donc entrer et sortir librement. Nous pouvons aller dans le monde et entreprendre des projets pour la gloire de Dieu. Troisièmement, une autre grande richesse. Celui qui entre par la porte trouve la satisfaction et la provision. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Il trouvera de la bonne nourriture pour sa santé spirituelle et même dans les moments de désert spirituel. Dieu est là. Et David l'a bien reconnu. On connaît tous, quand nous sommes chrétiens, ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. De quoi Jésus parlait-il? Eh bien, je pense que Jésus parlait de la vie nouvelle, de la communion riche et bénie que nous avons avec Dieu grâce à son œuvre, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous aussi. Jésus nous a promis une vie riche et abondante, c'est-à-dire une vie excellente en communion avec Dieu. Une vie qui se développe spirituellement. N'est-ce pas merveilleux d'être le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole. Et puis la parole nous dit aussi que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes. Et puis, une autre richesse que je trouve vraiment merveilleuse, c'est la quatrième que je note, c'est celui qui entre par la porte trouve un troupeau. Celui qui entre par la porte trouve un troupeau. Et j'expérimente ce cadeau tous les jours, déjà à l'Institut, mais aussi dans notre église locale. Et de vivre cette joie de la communion fraternelle. Celui qui entre par la porte trouve un troupeau. Que pensez-vous de ce trésor? L'église est-elle vraiment un trésor pour vous? Vous savez, nous faisons partie d'un même troupeau, mais est-ce que nous connaissons toutes les brebis du bon berger dans cette assemblée? Vous savez, quand une nouvelle personne vient à Jésus et devient chrétienne, le Seigneur l'ajoute à son troupeau. Est-ce que vous êtes encouragé dans la joie quand le Seigneur crée ce miracle? Nous avons vu la parabole du bon berger. On a vu aussi la parabole de la porte. Je vous propose maintenant de rentrer dans l'explication de cette parabole. Lisez avec moi les versets 11 à 18. Versets 11 à 18. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Qui est ce berger ? Qui est ce berger ? Pour les Juifs de l'époque, forcément, quand Jésus dit ça, ils doivent penser au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et à ce moment-là, Jésus dit qu'il est l'Éternel, le seul vrai Dieu. En Israël, vous savez, tous savaient que Dieu était le berger de son peuple. Jésus n'était pas seulement un sous-berger, comme les dirigeants d'Israël, ou comme les pasteurs ou les anciens de nos églises. Non, il est le berger, de façon unique et absolue. Et c'est vrai, déjà dans l'Ancien Testament, les dirigeants d'Israël avaient reçu des avertissements, notamment le prophète Ézéchiel. « Malheur à vous, vous êtes de mauvais bergers qui ne prenez pas soin des brebis du Seigneur. » Mais Dieu a aussi communiqué une promesse par la bouche de son prophète. Toujours dans Ézéchiel, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis. » Jésus est le bon berger promis, le berger parfait. Vous savez, des brebis errantes sont des brebis sans berger pour prendre soin d'elles, sans berger qui les conduit. Chacune court après sa touffe d'herbe. Et Ésaïe 53, le verset 6, nous le rappelle. Hein, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Surtout, une brebis sans berger va être exposée et sans défense. Sans défense contre tout prédateur. On le voit ici, hein, les mercenaires abandonnent les brebis et prennent la fuite. Ils abandonnent les brebis et prennent la fuite. Et quand on voit ce passage, forcément, on pense aux pharisiens. Ce sont eux qui trahissaient les intérêts du troupeau. Et puis de nos jours, ce sont des faux bergers aussi qui s'enfuient dès qu'ils voient approcher le danger. Et donc cette image, elle peut s'appliquer à tous les conducteurs religieux. Tous les conducteurs religieux qui font leur métier comme ils feraient n'importe quel autre métier, pour peut-être subvenir à leurs besoins matériels, par exemple. Tant que tout va bien, ils font leur tâche. Mais quand surviennent des dangers, eh bien, ils s'occupent premièrement de leur propre sécurité et leurs intérêts passent avant celles des brebis. Et vous savez, dans ce monde, beaucoup de choses tentent d'arracher les brebis du bon berger. Le diable, Satan est toujours là, le monde et le péché sous toutes ses formes. Le combat fait rage spirituellement. C'est ainsi que nous étions quand le bon berger s'est présenté pour nous rassembler sous sa houlette. Certaines se sont égarées alors qu'elles savaient qui était le vrai berger. Mais elles ont voulu faire leurs propres expériences. Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas tenu rigueur. Il a tout pris sur lui. Personne ne nous a aimés comme Jésus. Personne. Son nom même annonce qu'il vient sauver. On l'a vu tout à l'heure, Jésus signifie celui qui sauve. Et On l'a rappelé encore ce matin dans tous les cantiques, le jour de sa naissance a été le commencement des bonnes nouvelles reçues grâce à lui. Et donc, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous lui appartenons. Je dis bien comme Seigneur et Sauveur. Souvent, les gens veulent que Jésus Sauveur, mais comme Seigneur et Sauveur, tout comme les brebis, avec docilité, c'est-à-dire avec soumission et obéissance. Et on peut se poser cette question, hein. Comment se fait-il que les brebis lui appartiennent ? Comment se fait-il que les brebis lui appartiennent ? D'abord, elles lui appartiennent parce que les brebis ont été données au berger. Si vous regardez quelques versets après dans le même chapitre, hein, c'est verset 29, on voit que les croyants sont la propriété de Jésus-Christ parce que le Père lui a donné ses brebis. Regardez, mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Depuis toujours, le Père a promis, depuis toute éternité, de donner à son Fils des personnes bien précises pour qu'elles soient ses brebis pour toujours. Vous savez, il y a une différence entre « mes brebis me connaissent » au lieu de « je suis connu de mes brebis ». Je répète, il y a une différence entre « mes brebis me connaissent » au lieu de « je suis connu de mes brebis ». Et puis nous voyons, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut aussi que je les amène. De qui Jésus parlait-il ? Il avait déjà des brebis autour de lui, hein. Il y avait ses disciples, ses apôtres. On savait qu'il faisait partie du peuple d'Israël. Cependant, Jésus savait que le Père lui avait donné d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Et il faut que je les amène. Je pense que c'est clair, Jésus parlait de tous les autres croyants qui allaient venir par lui. Il parlait de nous. Il nous a connus d'avance. Et nous lui avons été d'avance promis par le Père. Jésus peut dire, tu es à moi. Et en second lieu, les brebis lui appartiennent parce qu'elles ont été achetées par le berger. Il fallait qu'il accomplisse la rédemption pour ses élus. Ce rachat que Jésus, oui, a payé au prix de son sang. Ce sang qui a été versé pour nous. Je donne ma vie pour mes brebis. Quand Jésus dit « je donne ma vie pour mes brebis », vous savez, ça a coûté à Dieu le Père de sacrifier son Fils. Et on voit que la générosité, vous savez, elle s'évalue toujours en fonction de ce que le geste a coûté. Dieu prend toujours l'initiative. Et Dieu a fait le premier pas. Mais concrètement, que fait-il ce bon berger ? Le texte nous dit, le Père l'aime parce qu'il a choisi de donner sa vie afin de la reprendre. Il indique que sa mort en sacrifice n'était pas la fin. Il y a eu ensuite sa résurrection qui servit justement à démontrer que Jésus était le Messie et qu'il était Dieu. Jésus a constamment obéi à ce qu'il appelle l'ordre qu'il a reçu de son Père. C'était la mission qu'il avait librement acceptée et qu'il a parfaitement remplie. Nul ne pouvait sans sa volonté lui ôter la vie. Il la donne de lui-même, par amour. Et oui, le bon berger donne sa vie et il nous parle. Nous avons constamment besoin d'entendre et d'écouter sa voix. Nos pasteurs aussi sont les brebis du bon berger. Ils ont besoin d'écouter et d'entendre la voix du bon berger. Quel encouragement pour nous ce matin de connaître la voix du bon berger. Quelle joie, non ? Sachons apprécier ce beau cadeau. Tout ce que nous venons de voir ce matin, ce sont ça les vrais cadeaux. On ne les trouve pas au pied du sapin. C'est uniquement dans la personne de Jésus. Et ceux qui ne sont peut-être pas familiers à sa voix ce matin, entendez-vous aujourd'hui sa voix ? Êtes-vous prêt à suivre ce bon berger ? Nous avons donc vu deux paraboles. La parabole du bon berger et la parabole de la porte, puis son explication. Et puis, nous arrivons dans cette conclusion qui montre l'opinion partagée des Juifs. Lisons ensemble les versets 19 à 21. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Vous savez, la plupart des personnes qui étaient ici présentes, quand ils ont entendu le témoignage de Jésus, ils l'ont rejeté avec un profond mépris, avec des paroles injurieuses. Et on voit même que par la suite, ils vont le lapider à nouveau pour ces paroles-là. Peut-être vous vous dites, vous aussi, que Jésus est fou. Peut-être que vous pensez ça ce matin, Jésus est fou. Ou peut-être que ce matin, il a ouvert vos yeux sur qui il est. Aujourd'hui encore est une journée porte ouverte. Aujourd'hui encore est une journée porte ouverte. Sa grâce est encore disponible pour quiconque veut franchir sa porte et faire partie de son troupeau. Il y a un seul vrai et unique berger qui vous cherche. Il y a un seul vrai et unique berger qui vous cherche. Pour rester dans l'image de la bergerie, vous savez, la Bible parle de deux catégories. Jésus sépara les brebis d'avec les boucs. Les brebis du Seigneur seront avec lui dans sa bergerie céleste, mais il repoussera aussi les boucs dans les ténèbres du dehors. Alors, deux choix s'offrent à nous dans cette vie. Une félicité éternelle dans la gloire de notre Dieu, ou une malédiction sans fin dans un lieu qu'on appelle le lieu de pleurs et de grincements de dents. Soit vous êtes une brebis du bon berger, soit vous êtes certainement un bouc du monde. Soit ce soir, vous célébrerez, vous savez, ce vieil homme en rouge que vous savez ne pas exister, soit vous célébrerez la venue du Seigneur Jésus, le bon berger. Et tout comme les pharisiens, il y a plus de 2000 ans, nous venons d'entendre les paroles de Jésus. Jésus nous dit ce matin qu'il est la seule porte, l'unique porte des brebis, et qu'il est le seul et unique bon berger. Il a donné sa vie. Toutes les prophéties qui annonçaient sa venue et pourquoi il devait venir ont été accomplies. Nous les avons lues ce matin aussi, certaines d'entre elles. Pendant qu'il était sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Les cantiques que nous avons chantés ce matin nous le rappellent aussi. Le Seigneur Jésus se tient à la porte de votre cœur ce matin. Il ne vous invite pas à rejoindre une religion ou une secte. Il vous invite à sa personne. Continuons à écouter la voix du bon berger. Pour entendre sa voix, nous devons faire silence dans nos cœurs. Ouvrir les Écritures, chercher sa face, devenir de plus sensible à sa voix. Nous devons aussi, bien évidemment, nous soumettre et obéir. Nous devons aussi montrer la voie à nos petits agneaux qui sont juste derrière, qui seront, si Dieu veut, par sa grâce, les futures brebis du bon berger. Rappelons-nous ce matin que servir Dieu est une grâce. Et c'est rendu possible par la venue de Jésus, par rien d'autre. Mais en attendant sa seconde venue, ne fêtons pas seulement, célébrons le bon berger. Prions. Seigneur Jésus, tu es la preuve ce matin que si même moi, ce matin, je suis là devant mes frères et sœurs et devant d'autres personnes que je ne connais pas, c'est que tu es vivant et vrai, Seigneur. Moi-même, j'étais une brebis égarée qui marchaient selon mon bon plaisir, selon mes passions, animées par ma chair. J'étais dans les ténèbres, Seigneur, et tu m'as délivré. Et c'est ce que tu veux faire encore aujourd'hui, ce matin, délivrer les personnes. Tu es le bon berger. Et les brebis entendent ta voix, les vraies brebis. Seigneur, nous savons que tu as un peuple nombreux encore à sauver. Et que si tu tardes à revenir, c'est parce que tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de ta vérité. Oui, Seigneur, tu changes les cœurs aujourd'hui. Tu transformes des vies encore. Seigneur Jésus, je te prie de créer le miracle même encore ce matin. Si des personnes se posent des questions sur qui tu es réellement, ouvre-leur, Seigneur Père, par ton esprit, de comprendre tes Écritures. Ouvre leurs oreilles pour entendre ta voix, Seigneur. Ouvre leurs yeux pour voir. Oui, il y a pire que d'être aveugle, naturellement. C'est l'aveuglement spirituel. Merci, Seigneur, de t'être offert en sacrifice pour nous rendre la vue, cette relation qui restaure toutes choses. Sois loué ce matin, Seigneur, et reçois toute notre adoration. Et que ce message de ce matin puisse encore encourager d'autres personnes, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.